C'est l'un des symboles des Sables d'Olonne et il est pourtant en piteux état. La tour d'Arundel, ce phare carré en pierre qui domine le chenal côté La Chaume, l'un des derniers édifices que les navigateurs du Vendée Globe croisent avant de s'élancer pour le tour du monde. Mais donc il va mal, à tel point que la ville vient de voter un plan de sauvetage en urgence. Et Yves-René Tapon, vous avez pris de la hauteur pour nous expliquer tout ça.
Du haut de cette tour, plusieurs siècles contemplent la ville et la baie des Sables d'Olonne. Jean-François Dejean, adjoint à la culture, nous y conduit.
120 marches pour monter en haut de cette tour.
La tour de Rapedel, c'est un symbole au sable, hein, puisque tous les navigateurs qui rentrent ou qui sortent sont salués par la tour d'Arundel. C'est une tour qui aujourd'hui est un phare et qui, à ce titre d'ailleurs, appartient à l'État, aux phares et balises.
Mais sur ce qui fut à une époque l'unique phare de Vendée, le temps a laissé des traces qu'a constaté Hervé Retureau en charge du patrimoine à la ville.
On a constaté effectivement des infiltrations, des pierres qui sont désolidarisées, des attaques liées au sel, à l'humidité, voilà, donc tout ça met en péril la structure.
Et du coup, le projet de musée de la mer au pied de la tour est retardé. Le montant des travaux de restauration est déjà chiffré, Jean-François Dejean.
Ça va coûter 1,5 million d'euros. Et on espère avoir des subventions substantielles de l'État, qui, n'oublions pas, est encore propriétaire de la tour.
Et comme tous les moyens sont bons, la mission du patrimoine de Stéphane Bern sera également sollicitée.
Pour sauver donc la tour d'Arundel construite au 15e siècle au Sable d'Olonne.
Les automobilistes doivent prendre de nouvelles habitudes à partir d'aujourd'hui pour franchir la Loire à Nantes.
Ouais, parce que ça y est, le pont Anne de Bretagne est fermé entre le centre-ville et l'île de Nantes au niveau des machines, fermé aux voitures, aux camions et aux motos pour un an. C'est le début du chantier XXL pour faire passer le tram sur ce pont et le transformer en large plateforme. Et dans le quartier, en attendant de voir quelles sont vraiment les répercussions, on se pose beaucoup de questions. C'est le cas du président de l'association des commerçants de la Prairie au Duc et des Nefs, Jérôme Cuny.
Tous les commerçants sont inquiets. Le restaurant est inquiet parce qu'il y aura moins de professionnels entre midi et deux parce que les professionnels vont faire plus de télétravail. Le caviste sans alcool que je suis est inquiet parce que je suis un commerce de destination. Et donc si on empêche les clients d'aller à destination, pas besoin d'avoir fait des hautes études pour comprendre qu'on va avoir un problème. Si je parle pour moi, j'ai tendance à être un petit peu moins inquiet pour la période estivale, parce que la mairie a raison de nous dire les gens viendront à pied, en transport, à vélo. C'est vrai, quand il fera beau, qu'il fait jour jusqu'à 22h, les gens vont venir. En revanche, on est tous très inquiets pour l'hiver prochain et spécialement pour Noël prochain, où quand il fera nuit à 5h, qu'il pleut et qu'il fait froid, là c'est pas vrai, les gens viendront pas à pied et en trottinette. Donc s'ils peuvent pas venir parce qu'il y a 2 heures d'embouteillage pour venir, ils viendront pas, ils iront ailleurs.
Il estime que l'aide que la métropole promet aux commerçants qui perdront au moins 5% de leur chiffre d'affaires ne suffira pas pour compenser donc la fermeture d'un an du pont Anne de Bretagne à Nantes. À ce propos, on vous détaille sur francebleu.fr à la page Loire Océan les différentes alternatives pour franchir la Loire pendant l'année qui vient. À Saint-Herblain, la Poste annonce que le bureau du quartier du Preux ne rouvrira pas, et tant pis, hein, si le plus proche est à 25 minutes à pied. Ce bureau, c'est celui qui a brûlé lors des violences urbaines de l'été dernier. Les habitants se sentent abandonnés et le maire ne compte pas se laisser faire.
Le Premier ministre veut illustrer sur le terrain ses mesures contre la violence chez les jeunes.
Alors il est à Nice ce matin en compagnie du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, mais aussi de celle à la jeunesse, la Nantaise Sarah Lairy, et la secrétaire d'État en charge de la ville. Ils vont dans un lycée qui ouvre son internat pendant ses vacances à une vingtaine de jeunes. Façon aussi pour Gabriel Attal de montrer qu'il est dans l'action, Marion Ferrer.
Il fallait aller vite après le discours de Véry Châtillon, nous confirme Matignon, incarné rapidement sur le terrain ce sursaut d'autorité face à la violence chez les jeunes. Prouver aussi que le Premier ministre et son gouvernement tiennent leurs engagements, ceux annoncés il y a un peu plus de 3 mois lors du discours de politique générale. Gabriel Attal avait alors prononcé cet avertissement. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Place donc à l'exemple concret sur le terrain avec l'ouverture de ce premier internat mis en place uniquement pendant les vacances scolaires et où un peu plus de 20 élèves en situation de décrochage vont bénéficier d'ateliers d'accompagnement. L'occasion, nous explique-t-on, de leur redonner un cadre, de leur éviter le pire. C'est la méthode Attal, nous assure un membre de son équipe, passer des paroles aux actions, le tout avec une communication très maîtrisée autour seulement du Premier ministre.
Gabriel Attal donc à Nice aujourd'hui. Nice et le procès en appel de l'attentat du 14 juillet juillet 2016 sur la promenade des Anglais qui débute à Paris. Les victimes vont donc une nouvelle fois revivre l'horreur de ce camion qui fonce dans la foule et tue 86 personnes. La remorque d'un camping-car qui contenait notamment une batterie a pris feu et elle a explosé à Venanceau près de La Roche-sur-Yon. Un homme a dû être emmené à l'hôpital. Il est gravement brûlé au visage et aux mains.
Les hockeyeurs nantais sont sacrés champions de France.
Oui, les corsaires de Nantes qui décrochent le titre dans leur patinoire de Petit Port face à Chambéry. Le titre de deuxième division, même si elle s'appelle la D1. Au-dessus, il y a la Ligue Magnus. On ne sait pas encore si les corsaires pourront monter en Ligue Magnus parce que c'est des histoires de finances qui pourraient les en empêcher.